Alors bonjour à tous. Ce qui est marrant, c'est que parfois il y a des pré-messages. Je dis alors, vous avez déjà tout dit, donc c'est formidable. Ça, c'est, je dis merci Seigneur.
Oui.
Voilà, on entend. Pardon. Donc je dis je suis soufflé déjà, donc. Mais bon, Seigneur, il m'a dit, va et parle. Donc, je dois parler. Et on a parlé de confiance, on a parlé de la foi, des épreuves, tout ça. Donc, on va prier 2 minutes pour demander au Seigneur pour qu'il puisse bien cadrer les choses. Seigneur Jésus, que tu me diriges par le Saint-Esprit. Que tu me contrôles par le Saint-Esprit, Seigneur, que tu mets les paroles dans ma bouche, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous sommes ton troupeau, nous avons besoin de toi, Seigneur. Et que nous puissions recevoir ce que tu veux nous dire plus profondément, Seigneur. Ce que tu désires de nous aussi. Au nom de Jésus, amen. J'ai eu à cœur, c'était cette semaine, dans les derniers jours, je me demandais quand est-ce que j'allais recevoir quelque chose, le thème, c'est la tempête apaisée. Donc on est dans cette situation parce qu'on passe aussi une situation difficile, on est aussi dans les épreuves, mais rassurons-nous, les épreuves sont salutaires, parce que sont formatrices. Ça creuse les choses et ça nous forme à l'image du Christ. C'est dans Luc, chapitre 8. Vous connaissez tous à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. C'est la tempête apaisée. Chapitre 8, verset 22 à 25. Donc je vais lire le passage. Un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchaient et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent l'un à l'autre, « Quel est donc celui-ci ? » Car il commande même au vent et à l'eau, et il leur obéissent. Alors dans le premier verset, verset 22, Jésus montre la destination à atteindre. Allons de l'autre côté de la rive du lac. Donc ils sont dans le bateau. Alors le bateau, ça peut être l'église, ça peut être nos vies personnelles. Dans le bateau, il y a Jésus, bien sûr. Jésus est avec nous, il est en nous. Donc la destination à atteindre pour les disciples qui représentent la terre promise et le royaume des cieux, pour aller au sens large. Mais dans notre vie, il y a des petites destinations, je dirais, des petites terres promises. Ça, c'est la volonté du Seigneur qui veut nous diriger dans nos vies. Tu dois aller à tel endroit, tu dois t'établir à tel endroit. Et donc, il faut bien écouter la volonté du Seigneur. Et j'avais jamais fait attention pourquoi Jésus donne la destination avant. C'est le but à atteindre, arriver au port. Au verset 23... La tempête représente les épreuves dans la vie qui nous mettent en danger. Les épreuves de la vie nous mettent en danger. Bonjour, bienvenue. Donc les épreuves, ils nous mettent en danger. Alors pourquoi ? Parce que ça nous déstabilise. Le Seigneur veut nous enlever toutes les choses auxquelles on pourrait se raccrocher. Et dans le verset 23, qu'est-ce qu'on voit tout de suite ? C'est une bourrasque qui arrive, une tempête. Et donc, en fin de compte, c'est l'ennemi qui vient aussi attaquer l'Église, qui vient attaquer nos vies, qui cherche à nous intimider par tous les moyens, à ce qu'on ressent de la peur, de la crainte, de l'incertitude en ce qui concerne l'avenir. On ne sait pas toujours où on va, enfin, et à un moment donné, on perd pied. Donc, qu'est-ce qu'ils font au verset 24 ? Ils prennent conscience qu'ils ne peuvent se raccrocher à rien d'autre qu'à Jésus. À rien d'autre. Parce que faut se représenter la situation, ils sont dans une barque, bon, avec la tempête, les grandes vagues, le vent qui souffle. Bon, s'accrocher à quoi ? À sa propre force, à son intelligence, sa propre connaissance. Si c'est s'attacher à la barque, bon, ça va tenir un petit moment, mais après, il ne reste plus que de l'eau. Et souvent, le Seigneur, il nous emmène, pas toujours sur la terre ferme, il nous emmène où c'est l'eau, là où on perd vraiment pied, là où ben, il n'y a rien d'autre pour se raccrocher. Pierre en a eu l'expérience, et je dirais, Pierre a été courageux à un moment donné, quand Jésus est arrivé aussi, dans une autre... Notre parabole, quand il est arrivé, ils ont cru d'abord que c'était un fantôme. Donc l'image qu'ils ont eue, pas trop flatteuse. Mais quand ils ont reconnu que c'était Jésus, Pierre, qu'est-ce qu'il dit ? Il est un peu dans la même situation que les disciples. Si c'est toi, fais que je marche, que je vienne vers toi. Et il y va. Et c'est bien, c'est encourageant. C'est ce que Jésus demande. Ayez la foi. Ayez la foi. La foi, on l'a, mais c'est comme un fruit. Elle doit arriver à maturité. Et apparemment, Pierre pensait que, voilà, il était peut-être arrivé à maturité, puis que... Donc, il descend, il marche sur l'eau. Donc, il n'y a rien pour se raccrocher. Rien. Seul Jésus. Et puis, il arrive au milieu, il voit le bateau très loin. Il voit Jésus de l'autre côté, mais lui, il se retrouve au milieu. Et puis, il commence à regarder les éléments autour. Il commence à regarder là où l'ennemi rugit, comme un lion. Pour effrayer, pour déstabiliser. On parlait de stabilité à un moment donné dans les champs. Pour déstabiliser la foi, pour faire baisser le bouclier. Et là, il coule, mais heureusement, on peut crier à Jésus. Donc, il a crié. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont réveillé Jésus. Parce que Jésus était avec eux. Il dormait dans le bateau, il est avec nous. Mais dormir, ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas de nous. C'est que des fois, il nous emmène là où il veut nous emmener dans les épreuves et il nous laisse. Il nous laisse un petit peu, comment dire, mariner, voilà, voilà. Pourtant, on est dans un pays de gastronomie, j'aurais dû le trouver tout de suite. Hein. Ça se passe sur la mer, donc, hein. Et voilà. Mais en réalité, il ne dort pas. Il travaille notre foi, parce que le juste vivra par la foi. Qu'est-ce qui triomphe du monde ? C'est la foi. C'est la foi qui triomphe du monde. C'est la foi qui triomphe des épreuves, des incertitudes, des doutes, des craintes, enfin, des épreuves en général. Donc le fait que Jésus dormait, le réveille, donc Jésus se lève calmement. Et là, on voit toute la gloire du Seigneur, on voit toute la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, il se lève, il dit à l'ennemi, tais-toi. Il calme la tempête. Et puis, il pose une question dans le verset 25, hein, qu'on connaît tous. Hein. Je vais le lire. Oui, oui, oui. Ouais, c'est marqué derrière. Ah ben c'est bien. Mais tu sais, j'ai pas l'habitude. Ah, mais c'est bien, c'est. Donc vraiment, le Seigneur veut qu'on sache. Hein, c'est ici, c'est là, on l'entend. C'est que, hein, faut pas être sourd. Attention. Où est votre foi? Et dans l'épreuve, en fin de compte, Jésus veut réveiller en nous la foi et l'amour qu'on a pour lui. Le premier commandement, ça se travaille tous les jours de notre vie. Alors le Seigneur, tout à l'heure on a parlé parce que c'est formidable, hein, c'est formidable. Alors comment réussir à vaincre les épreuves? Parce qu'on peut les vaincre. Il nous a donné l'armure spirituelle. Jésus est avec nous. Donc on a des tas de bénédictions et pourtant, de temps en temps, on arrive encore à tomber. Mais ça fait partie de la formation, rassurons-nous. Mais quand même, Jésus aimerait bien que de temps en temps, on soit comme Pierre. Seigneur, ordonne que je vienne et d'y aller, mais vraiment par la foi. Parce que c'est souvent l'incrédulité qui bloque la situation. Dès l'instant où on se met à douter, dès l'instant où on sent la crainte, l'oppression de l'ennemi, dans toutes sortes de situations, il veut vraiment déstabiliser la foi. Et la foi est enracinée en Christ. Elle est sur le rocher. C'est une arme puissante. Je dis d'ailleurs que l'armure spirituelle a été fabriquée avec la poussière céleste. Et l'ennemi ne veut pas qu'on s'en sert. Il ne veut pas qu'on s'en sert. Surtout le bouclier de la foi. Parce que le bouclier de la foi, c'est ce qui permet de nous protéger tout le corps de toutes ces flèches enflammées. Il préfère qu'on garde l'épée. Mais à quoi ça sert d'avoir la connaissance si on n'a pas la pratique? Il faut vivre les choses. Jésus veut qu'on vit les choses. Alors parfois, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Des fois, il faut les encaisser. Parfois, on passe des moments de souffrance. Mais voilà, c'est là qu'on va mûrir. C'est là qu'il va nous façonner à son image. Et je ferai remarquer que là, on voit des disciples un peu craintifs dans le bateau. On voit les apôtres. Mais une fois que Jésus est retourné au royaume, quelle image on a des apôtres? Après, on a une image de tous les apôtres qu'ils ont une foi ferme et authentique, qui sont prêts à s'abandonner à Jésus, prêts à porter leur croix et prêts à payer le prix. Tous les apôtres, pratiquement, ils sont morts. D'autres ont été en prison. Jean-Baptiste a été décapité. Étienne a été lapidé. Mais quelle a été leur victoire? Quelle a été la victoire contre les puissances des ténèbres, contre les démons, les esprits du mal dans les lieux célestes? Ça a été la foi, la fidélité, bien sûr l'obéissance. Quand je parle de la foi, vous savez très bien que je parle de tout ce qui suit derrière. Le juste vivra par la foi. Dans Éphésiens, il parle de tous les héros de la foi. Et il faut s'en inspirer, de tous les héros de la foi. Alors je vais simplement rappeler que ce que le Seigneur nous dit de bien utiliser le bouclier, parce que l'ennemi est tellement rusé, il essaye de tout faire pour qu'on baisse notre garde et que surtout, vous savez, le bouclier en général pour un soldat, il est assez lourd et des fois on a envie de le poser. Erreur fatale. Il veut qu'on laisse un petit peu tomber et comme ça, eh ben, on est à découvert. Et là, on peut se faire transpercer par les situations difficiles de la vie. Alors Éphésiens, on va prendre Éphésiens que tout le monde connaît parfaitement, je pense. Il suffit pas de le connaître, hein, faut qu'on la mette en pratique. Et croyez-moi, en ce moment, je la mets en pratique. Quand vous savez que tout le monde est contre vous, parce qu'on vit une situation, je vis une situation un peu difficile, quand vous avez tout le monde contre vous. Et Jésus, il m'a rappelé, rappelle-toi, moi aussi, tout le monde a été contre moi. J'ai dû supporter l'opposition des pharisiens, l'opposition de ceux qui étaient tous contre lui. Bon, bien sûr, heureusement qu'il y en a qui l'ont suivi. Jésus a demandé dans le jardin de Gethsémané, là où il y avait, on parlait d'huile, mais l'huile, parfois, le Seigneur veut la presser. Jardin de Gethsémané, le pressoir à huile. Et Jésus a eu besoin d'être fortifié dans sa foi par un ange. Parce que là, c'était à son maximum pour le faire déstabiliser. Dans sa confiance en Dieu. Je ramasserai après. Alors, Éphésiens chapitre 6, je vais rappeler simplement le verset 11, 13, 16. On en parlait tiens, tout à l'heure avec Philippe. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Donc je dirais les deux mots clés, tenir ferme contre les manœuvres du diable. Vous savez, il est tellement habile à manœuvrer les gens. Dans le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, j'espère qu'on n'est pas sourd, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors là, le Seigneur, il m'a montré autre chose. Il m'a dit, c'est bien beau d'avoir les armes spirituelles, le bouclier de la foi. Il faut tenir ferme dans le mauvais jour. Les mauvais jours, c'est les temps d'épreuve qu'on passe dans notre vie. Jusqu'à temps qu'on arrive de l'autre côté, sur la terre promise, de l'autre côté du lac, au royaume des cieux, où il y a la vie éternelle. Mais il m'a fait remarquer une chose. Après avoir tout surmonté, c'est-à-dire on ne va pas échapper, on est aussi dans une guerre spirituelle. L'épreuve, on est dans une situation où on doit vaincre par la foi. Et on triomphera qu'après avoir tout surmonté. Le problème, c'est que bien souvent, on abandonne le combat avant qu'il soit fini. Avant qu'il soit fini. Et on laisse tomber le bouclier. Et là, on se fait blesser. Et là, on voit très bien que dans les églises, beaucoup de gens sont blessés, découragés. Il y en a même qui partent. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les ramène vers lui. C'est tout ce qui compte. Verset 16. Toujours, prenez en toutes circonstances, tous les jours, à tout moment. Tout moment. Faut pas non plus être naïf. Jésus veut pas qu'on soit des chrétiens naïfs. Il dit, soyez prudents comme un serpent et doux comme une colombe. Il faut pas être naïf non plus. Ne pas croire que l'ennemi va nous laisser tranquille. Il nous laissera jamais tranquille jusqu'au dernier jour de notre vie. Heureusement que Jésus nous garde. Il nous porte dans sa main. Il est le Dieu souverain. Et rappelons-nous dans le bateau que Jésus a montré à ses disciples au verset 25, il est le Tout-Puissant. Il a calmé la tempête. Il a calmé l'ennemi. Donc pourquoi avoir de la crainte? Il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr le corps et l'esprit. Donc prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les éteindre. Il dit pas simplement les esquives. Il dit les éteindre complètement. Les éteindre. Mais voilà, le Seigneur, il veut nous amener bien souvent, il permet les épreuves dans notre vie pour qu'on puisse renoncer à soi-même. Et je vais prendre Galates pour rappeler C'est Galates chapitre 2, verset 20. Hein. Galates chapitre 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il est dans la barque avec moi. C'est lui qui vit en moi. Pour qu'il vit en moi, on doit le laisser prendre la place. On doit s'abandonner. Ma vie présente aujourd'hui, je ne parle pas il y a 2000 ans, je parle aujourd'hui, au 21e siècle. Ma vie présente dans la chair. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Voilà ce que Jésus nous demande. Amen. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Il n'y a pas lieu de se laisser déstabiliser. Il n'y a pas lieu de se laisser décourager. Ça arrivera. Ça, on n'est que des hommes, ça arrivera. Mais Jésus, il est là, il vit en nous. Et il faut que ce soit concret, il faut que ce soit de l'authenticité. Chaque jour dans notre vie, au travail, peu importe, partout dans la vie sociale, il faut que ce soit du concret, du palpable. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ? On va prendre Matthieu, chapitre 16, verset 24. Et là, je dirais, ce verset-là, j'avais eu le sentiment que le Seigneur me faisait comprendre que souvent, on cherche des promesses, on cherche des, des recettes, parler de cuisine, hein. Des recettes, comment, Seigneur, je vais réussir, mais on a déjà tout ça en nous, en Jésus-Christ. C'est déjà là. Il faut s'en servir. Il faut l'utiliser. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous faire vaciller dans notre foi. Il faut le renvoyer avec Jésus. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais Jésus est en nous. Alors, chapitre 16, Matthieu, chapitre 16, verset 24. Si j'y suis pas, c'est sûr que je vais avoir du mal à le lire. Voilà. Verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc là, il y a trois éléments importants dans ce verset. Renoncer à soi-même. Quand Jésus a emmené les disciples dans le lac, c'est ce qui s'est passé. Les disciples ont pris conscience à un moment donné qu'ils devaient renoncer à eux-mêmes. Tout ce qui peut nuire à leur foi en Jésus-Christ. Tout ce qui peut congréner, qui peut rajouter l'incrédulité, tout abandonner, faire confiance. Ils ne pouvaient rien faire, les disciples. Ils ne pouvaient rien faire. Simplement que crier à Jésus et faire confiance à Jésus. D'ailleurs, les disciples, ils auraient dû se rappeler que le Seigneur leur a indiqué la destination. Donc, ils savaient très bien qu'ils allaient arriver à la destination. Vu que Jésus était avec eux dans le bateau, ils allaient y arriver, coûte que coûte. Simplement, l'ennemi est venu les perturber. Et là, ils ont perdu un peu la direction. Ils ont perdu un peu la boussole. C'est marrant parce que quand je faisais le message sur la tapisserie dans la chambre, il y a des bateaux, il y a une boussole, il y a un phare. Hein, et il y avait le... comment ça s'appelle ? Non, le volant. Le. Hein ? Ouais, le gouvernail. Il y avait un gouvernail. Voilà. La barre de gouvernail. Non, mais comme quoi, vous voyez, hein, on a beau savoir les choses, mais qu'on peut perdre un peu. Hein, quand on est perturbé, on peut perdre vite la boussole. Donc, voilà, Pierre a dû renoncer. Et je peux prendre par exemple aussi deux images, vite fait, de comparaison, le roi Saül et le roi David, en matière de stabilité dans la foi. Le roi Saül a été complètement déstabilisé par l'ennemi. Par contre, David, lui, a fortifié sa stabilité et sa foi en Jésus-Christ, en Dieu, par les épreuves. Le roi Saül était face à l'ennemi avec les Philistins. Et le prophète Nathan, c'est ça si je ne me trompe pas, avait dit « Attends-moi 8 jours, j'arrive pour offrir le sacrifice. » Et puis le roi Saül, bon, il était là avec toute son armée. Et puis devant, il y avait l'ennemi, il y avait Goliath qui aimait bien critiquer, injurier, même injurier le Dieu d'Israël. Impressionné, intimidé, il rugissait l'ennemi. Et puis ben, le roi, il commence à s'inquiéter, il dit « Oh là là !» Il commence à regarder son armée, il voit que il y en a, ils s'en vont, ils vont se cacher dans les grottes. Il y en a, ils commencent à partir, à retourner dans leur famille. Et il voit que voilà, leur foi commence à vaciller, tout commence à trembler. Et lui, il a voulu compter sur sa propre force. Et il a dit « Je vais me faire violence ». Je vais compter sur ma force physique, sur mon intelligence. Et puis il a voulu offrir, il a désobéi à l'Éternel. De ce fait-là, Nathan, quand il est arrivé, le Seigneur lui a fait comprendre qu'il l'a enlevé en tant que roi. Il a perdu son autorité. Il a été enlevé. Et il a choisi David. Et David, un gamin de 12 ans, il était derrière en s'occupant des moutons. Hein. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Hein. C'est un paysan, hein, on dirait aujourd'hui dans la société. Hein. Mais ce paysan, ce paysan a appris avec l'Éternel à chasser des lions et des ours pour protéger le troupeau. Il faut avoir de la foi pour un gamin de 12 ans. Il n'y avait pas des soldats avec lui, hein, il n'y avait que l'Éternel avec lui. Et il a chassé avec une pierre, avec une fronde. Mais il faut le faire quand même. Et là, Dieu a forgé déjà sa foi dans les épreuves. Et David avait compris qu'il fallait se laisser former par le Seigneur. Et que la clé, c'était l'obéissance dans la foi. Bien sûr, dans la parole de Dieu, les Écritures, les commandements, tout ça. Mais dans la foi, c'est ça. Alors, quand il arrive devant Goliath, excusez-moi, mais quand David arrive dans l'armée d'Israël, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit tous les soldats de l'Éternel en train de trembler. En train de trembler. Mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y en a qui le voient, alors il y en a, ils se mettent en colère, l'ennemi met encore pression sur David pour le faire taire. Tais-toi, mais tais-toi, tu vas les réveiller, ça va pas, non? Tais-toi. Laisse-les là où ils sont parce que ils sont très bien endormis, c'est très bien comme ça. Sinon, je vais avoir beaucoup de boulot. Ça va être très difficile. Et David, il commence à parler et son frère lui reproche des choses. Mais qui es-tu, toi, pour nous faire une leçon de morale? Mais d'où tu viens? T'es un berger, t'es un paysan, t'es derrière. Les apparences, toujours. Et puis le roi, il va voir le roi, donc j'essaye d'aller très vite, il va voir le roi. Le roi veut lui donner son armure, mais bon, David avec son armure, il ne peut plus bouger. Donc, c'est pas cette armure-là qui a besoin, pas l'armure des hommes, mais celle de l'Éternel. Amen. Celle de Jésus. Et il va avec sa fronde, et puis il voit Goliath. Et moi, quand je regarde David, mais il n'est pas déstabilisé dans sa foi, un gamin de 12 ans. Moi, je dirais, je serais à côté de lui, je dis, j'aurais honte. Il dit, excuse-moi, mais Seigneur, ça me montre là où je dois progresser. Eh bien, et puis il va avec les armes, avec la foi, au nom de l'Éternel. Voilà. Tout ça pour dire que dans Matthieu, il était prêt à tout abandonner, David, il a tout abandonné, et à renoncer à lui-même et à porter sa croix. Porter sa croix, il faut en payer le prix. Oui, il faut en payer le prix, il faut passer par là. Il faut passer par là. Si on veut suivre Jésus, ben Jésus va nous emmener, oui. Et il y aura un moment, ben il va peut-être nous faire traverser un lac, sans bateau, sans rien, et on devra se débrouiller. On va marcher comment? On va perdre pied. Mais il faut y aller. Il faut y aller. C'est ça, le suivre. Donc voilà, je pense que le Seigneur, ce matin, a touché nos cœurs largement dans la confiance, la foi. La foi, il faut que ça devienne une réalité. La foi, c'est une arme puissante, il ne faut pas oublier. Et c'est ça qui nous protège des coups de l'ennemi, mais c'est ça qui nous permet d'avancer et aller travailler cette foi, aller façonner cette foi. Donc je reviendrai juste sur un mot, ce que Jean-Luc disait, choisissons la vie dans la foi en Jésus-Christ. Amen.